Notre prochain orateur est docteur en sciences physiques et on s'étonnera pourquoi un physicien s'occupe de des aphias. Victor est membre du comité de la société Appia, mais le plus important, il nous parlera de son arrière-grand-père. Et ça, c'est le motif qui nous parle sur Georges Appia.
Après les deux précédents speeches, on va faire un peu plus simple. Alors, tout le monde connaît évidemment Louis Appia, qu'on en a entendu parler plusieurs fois. Et comme j'ai parlé de Georges Appia, son frère, je vais quand même vous parler un peu de ce qu'il a vécu dans sa vie familiale, de son engagement social et par quelques traits sur les étapes de son ministère pastoral. Alors, Georges Appia, la famille de Georges Appia, c'est une famille, comme vous le savez, originaire des vallées vaudoises du Piémont, près de Torre Pellice. Alors, Georges Appia est le fils de Paul-Joseph Appia et de Caroline Devollet. Il est le frère de Louis Appia, donc cofondateur du CICR. Merci à Roger d'avoir brillamment parlé de ce qu'il a fait. Et Georges est né le 8 janvier 1927 à Francfort, mais il est décédé le 19 septembre 1910 à La Tour, donc Torre Pellice dans le Piémont. Il épouse en 1859 Hélène Sturge, près de Londres, à Cliquham. Et Hélène est issue d'une famille de Quakers anglais et elle s'occupe beaucoup des pauvres à Londres. Ils ont eu 8 enfants, dont 4 sont morts en bas âge. Cécile, décédée à 1 an quand ils étaient en Sicile. Henri devient pasteur et épouse Thérèse Ray, mais je laisse Louis nous en parler. Louis Appia, en tant que Louis Appia, ça c'est le frère d'Henri, qui devient aussi pasteur et qui a épousé Louise Mail. Ensuite, il y a eu Jean, décédé à 2 ans, une sœur, Caroline, qui est restée célibataire, Charles, un petit frère qui est décédé à 6 ans, et Marie, qui a épousé le poète Thomas Sturge, mort, et finalement Henriette, qui est décédée aussi à bas âge. Alors, je vais parler des études, brièvement des études. Alors là, j'ai mis donc la photo. Vous voyez Georges avec sa femme. Ensuite, les 4 enfants. Donc il y a Louis, Caroline, Marie et Henri. Et ça, c'est la sœur de Jean-Jacques Louis. Ses études. Alors jusqu'à 10 ans, il a étudié à la maison avec son père et ils étudiaient principalement la Bible. Donc il restait au presbytère. En 1837, il commence ses études à l'école publique de Francfort, mais rapidement son père l'envoie dans un institut pour garçons à Boningheim. Alors cette période hors du foyer familial était vraiment dure pour lui, mais heureusement son frère Louis venait de temps en temps depuis Heidelberg pour le soutenir. En 1842, Georges part pour Nuremberg, qui était très réputé. Mais comme certains cours discréditaient le Nouveau Testament, alors son père Paul le retire de l'école et l'envoie au collège de Hanau. À 18 ans, en 1845, Georges vient à l'université de Genève et il retrouve ses deux sœurs qui habitent déjà là, Marie et Cécile. Alors, à ce moment-là, il va souvent écouter les prédicateurs comme Vinet et Malin. En automne 1846, il part de nouveau, il repart en Allemagne pour Bonn, et il a reçu une bourse l'année suivante et il va à la Halle. Mais en 1848, les cours sont stoppés à cause de la Révolution. Alors Georges revient à Genève pour terminer ses études à l'université. À ce moment-là, il s'installe avec sa mère chez sa sœur Marie Claparet. Dans cette période, il a une très mauvaise vue. Il a trop dessiné au lieu d'aller étudier. Il ne voyait plus grand-chose et sa mère reste auprès de lui pour lire les documents qu'il devait avoir pour faire ses études. Finalement, en 1853, à Strasbourg, Georges présente avec succès une thèse de doctorat. Dans ce qui est important, c'est quand même l'engagement social humanitaire. On ne peut pas parler de Georges sans parler de ça. Georges Appiah, comme un bon chrétien évangélique, a toujours eu un très fort engagement social et humanitaire. Entre 1854 et 1856, devant la terrible misère des Vaudois du Piémont, Georges s'engage dans les maladies. En 1854, il est au chevet des malades atteints du choléra et du typhus. Il soigne, prie et donne des conseils d'hygiène. Georges obtient la création d'un orphelinat qui a été installé au Copier. Alors les Copiers, c'est juste à côté de la Tour. La Tour, donc Torre Pellice. Et cet orphelinat était un refuge pour les dégonniers, donc les jeunes filles qui étaient vraiment extrêmement pauvres. Mais il organise des collectes à Genève et à Paris pour les pauvres et les enfants des bannis. Alors il est sûrement venu à Genève voir la société évangélique. Il achète des livres, il donne ses habits aux pauvres, et avec des collègues, il organise l'émigration vers d'autres pays tels que l'Algérie ou l'Amérique. En 1859 commence la guerre entre l'Autriche et l'Italie, et Georges s'implique. Tout d'abord, avec sa mère, il a écrit un petit livre d'édification pour les soldats, à distribuer aux soldats. Un petit livre pas très grand, mais qu'il a pris dans sa besace. Alors, en mai, Georges écrit à son frère à Genève pour avoir du matériel de soins pour les militaires blessés, ce qui incite son frère Louis à faire des collectes à Genève. En 1859, Georges visite à Turin les blessés et les prisonniers des premières attaques de l'armée autrichienne. Mais il est triste de ne pas pouvoir aller sur place, sur le champ de bataille. En 1866, nouveau conflit entre l'Autriche et l'Italie. Alors en mai 1866, Georges conçoit l'idée d'organiser une escouade d'ambulanciers et il réalise ceci dès le 20 juin à Milan. Et du 20 au 27 juillet, Georges et Louis Appiah, avec M. Gervis et M. de Vivot sont sur les lieux de l'action pour soigner les blessés. Elles sont grandement remerciées de leur dévouement par Garibaldi. Dès son arrivée à Paris, Georges s'occupe des nécessiteux de sa paroisse. Donc il était à Paris vers 1870. Il organise des collectes et s'occupe de l'asile du Bon Secours. Et en 1870, pendant le siège de la ville de Paris, Georges va ramasser les blessés à soigner près du front avec l'ambulance des diaconesses de Ruy. Alors Georges Appiah, étant fils et petit-fils de pasteur, et ayant deux beaux-frères pasteurs, il ne faut pas s'étonner qu'il ait choisi la voie du ministère pastoral, comme deux de ses fils d'ailleurs, Henri et Louis. Je tiens à mentionner ici son beau-frère, le pasteur Louis Valette, qui a été vraiment le mentor de Georges pendant de très longues années, pratiquement jusqu'à la fin de ses jours. Alors d'abord, il y a eu la période entre Paris et le Valais. En 1953, après avoir passé sa thèse en théologie, il a été consacré à la Tour et très rapidement, il va parcourir les paroisses vaudoises, prêcher, avoir des réunions le soir. Et pendant plusieurs mois aussi, il s'est occupé du culte de l'après-midi à la Tour. Mais en 1857, Georges retourne à Paris où il passe 18 mois d'activité dans l'église luthérienne, évangélique luthérienne, et Louis Valette lui confie du travail dans le diaconat de Ruy. Ensuite, il y a le ministère en Italie. Donc en 1859, à la demande de la table vaudoise, Georges accepte un ministère pastoral à Pignerol, près de la Tour. C'est son premier grand poste pasteur. Louis Valette lui propose en 1861 d'aller évangéliser en Italie. Alors Georges part s'occuper d'évangélisation à Palerme et en Sicile, mais l'opposition cléricale est rapidement pénible. Donc il est vraiment dans le mouvement évangélique où on va évangéliser, et il a fait ça pendant plusieurs années. Dès 1862, Georges devient pasteur de la communauté évangélique de Naples. De nouveau, Louis Valette était précédemment dans cette communauté, il a fait venir Georges après coup. Il est resté pendant 3 ans dans la communauté française et allemande. Ensuite, pendant quelques années, il est parti à Florence, où il était professeur de théologie pendant 2 ans. Et finalement, il revient à Naples, ministère pour la communauté italienne. Ensuite, lorsque Louis Vallet sent ses forces décliner, il demande à Georges Appiah de venir le seconder et le remplacer à Paris. Alors, de 1869 à 1910, donc pendant 40 ans, Georges s'investit dans un ministère à Paris pour l'église évangélique luthérienne. Et là, il s'occupe beaucoup de l'école du dimanche et il crée plein de petits récits, justement édifiants pour ces écoles du dimanche. J'en ai retrouvé une pile chez Macaire. On dirait récits sur Noël. Et il remplace aussi Louis Vallet dans l'œuvre des diaconesses de Rouy. Là, on réalise que Georges Appiah a passé tout son ministère au sein d'églises évangéliques, que ce soit en Italie ou en France. Et il a aussi été un grand évangélisateur, particulièrement en Italie. Alors, venons-en à... Alors là, c'était une photo que j'ai mise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le trio pastoral de la rédemption, quand il était donc à Paris, de Georges Appiah et deux de ses collègues. Et ici à droite, vous avez Louis Vallet, le pasteur Louis Vallet, qui s'occupe énormément de Georges. Maintenant, je vais parler du rapport de Georges avec la Société évangélique de Genève. Alors, vous vous attendez probablement à ce que je vous présente maintenant de nombreuses interactions de Georges Appiah avec la Société évangélique de Genève. Eh bien, dans ce cas, mes recherches n'ont pas été si faciles. Contrairement à son frère Louis et à son fils Henri, qui ont donné des cours à l'oratoire, les documents sur Georges n'ont pas été d'un transfert. Que ce soit dans les archives de la table vaudoise, où on est allé dernièrement, ou que ce soit dans l'impressionnante correspondance de Georges, je n'ai pas trouvé grand-chose. Je dois dire que la correspondance de Georges, ce sont des centaines de lettres, écrites en petits caractères, presque lisibles des fois. Donc je n'ai pas eu le courage de tout lire, et je n'avais pas accès à la plupart de ces lettres qui sont arrivées maintenant à la table vaudoise, et on pourra enfin les consulter. Alors, n'ayant pas eu le temps ni un accès facile à cette correspondance, j'ai quand même trouvé un certain nombre d'informations dont certaines sont venues de Roger. En 1845 et 1846, Georges poursuivit ses études à Genève, donc j'en ai déjà parlé, et pendant cette période, Georges vit chez son beau-frère le pasteur Claparède, qui est de l'Église nationale, mais qui est aussi un ami des valeurs de évangélique du réveil. Georges écrit à son père qu'il va souvent écouter les professeurs Merle-Daubigné et Pilet à l'oratoire, ainsi que les pasteurs Malan et de Maulle auprès de l'évêque. Donc il avait déjà un fort contact avec la société évangélique et avec la famille qui était là. Il a probablement été très souvent. Donc il en parle à son père. Alors maintenant, dans les comptes rendus des assemblées générales de la société évangélique, on voit un certain nombre de choses qui vont être faites à Georges. En 1858, Jean-Pierre Meil présente dans son discours le champ de travail des principales stations, enfin des stations évangéliques, de la société évangélique vaudoise. Donc il est invité et il mentionne alors la station de Pignerolles qui doit être occupée par le pasteur Georges Appiah. Ensuite, il y a 3 comptes rendus dans lesquels on voit que Georges Appiah intervient. Et ce, je pense, c'est dans le cas de l'évangélisation extérieure. Alors, en 1863, Georges Appiah, dans son intervention, remercie l'école de théologie de la Société évangélique de Genève, qui permet la formation de nouveaux pasteurs pour l'Italie, qui en a grand besoin dans son œuvre d'évangélisation. Donc ça, c'était très important. En 1864, de nouveau, Georges Appiah, pasteur à Naples, cette fois il était à Naples, et délégué de l'église vaudoise du Piémont, donne un discours sur les progrès de l'œuvre d'évangélisation en Italie, et plus particulièrement à Naples. Il demande une aide financière pour bâtir une église. Je ne sais pas combien il a reçu, mais sûrement dans les chiffres, on va pouvoir retrouver ça. Et en 1877, Georges Appiah présente représente la table vaudoise pour exprimer le sentiment de solidarité qui unit l'église des vallées vaudoises et celle de Genève. Il mentionne la grande difficulté de travailler dans les régions qui sont au sein du catholicisme. Comme j'avais dit, il est allé à Naples, ensuite en Sicile, et là, ça a été extrêmement difficile de faire l'évangélisation, et il a dû presque s'enfuir pour retourner à Naples, tellement c'était difficile. Alors, en conclusion, j'ai gardé cette page de conclusion que j'avais présentée en 2019 dans le colloque historique à Torre Pellice. Et puis, je crois que j'ai gardé parce qu'elle caractérise bien Georges. Voilà ce que je peux dire sur mon aïeul. Donc, c'est un chrétien évangélique engagé, même très engagé. Un éducateur au service de la jeunesse, donc il a été aussi professeur en Italie et à Paris, un pasteur apprécié par tous, un humanitaire de terrain, un chrétien social, un artiste, et surtout un vaudois de cœur. C'est pour ça qu'on l'appelait, vu son activité débordante, le buisson ardent, ça c'était le terme dans la famille. Voilà.